Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. To Go, Bel Âge et Québec Science. Au programme, 7 types de faim pour mieux comprendre pourquoi on mange, La Limite, une affaire personnelle, 6 façons de développer sa résilience et le chou frisé passe difficilement, même chez les fœtus. Bonne écoute.
Sept types de faim pour mieux comprendre pourquoi on mange. Un texte de Stéphanie Côté, paru le 12 janvier 2022 dans To Go. Connaître les différents types de faim permet de mieux déterminer les raisons pour lesquelles vous mangez. Puis, porter attention à ce que vous mangez et à vos sensations vous aide à écouter les besoins de votre corps et à être bien dans votre assiette. Manger, c'est bien sûr répondre à un besoin physique, mais ce n'est pas seulement ça. Les aliments contribuent aussi à combler des besoins émotionnels et sensoriels. La docteure Yann Chosen-Bays, spécialiste de l'alimentation en pleine conscience, a relevé 7 types de faim. Ils se manifestent sous forme de sensations, de pensées et même d'émotions. Voici ces 7 types de faim et comment il est possible de leur répondre sans que cela signifie « manger vos émotions ». Vous verrez, cela se fait avec peu de nourriture, car ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt le choix de certains aliments et la dégustation que vous en faites. Les 7 faims. 1. Faim de l'estomac. C'est celle qu'on appelle souvent la vraie faim. Elle exprime le besoin d'énergie du corps et elle se manifeste par des signes physiques tels que gargouillis, creux dans l'estomac et fatigue. Prenez conscience de l'intensité des sensations présentes dans votre ventre. Avez-vous une petite ou une grosse faim? Lorsque vous mangez, mastiquez en étant attentif aux changements de texture et de goût dans votre bouche. Avalez puis questionnez-vous. Votre estomac est-il satisfait ou la faim est-elle encore présente? La faim de l'estomac dicte le moment de manger ainsi que la quantité de nourriture nécessaire. Les autres types de faim peuvent être satisfaits lorsque la faim de l'estomac est présente, afin d'éviter d'outrepasser vos besoins. 2. Faim des yeux. La vue de certains aliments vous donne instantanément envie de les manger. C'est la faim des yeux. Pour satisfaire cette faim, prenez le temps de regarder votre assiette. Observez les formes, les couleurs, la disposition des aliments, etc. Demandez-vous ce qui vous plaît et quel effet cela a sur votre faim. Il est intéressant de savoir qu'on peut nourrir la faim des yeux avec d'autres choses que des aliments. Qui sait, peut-être qu'observer une peinture, la nature ou des images de la maison de vos rêves pourrait satisfaire une fringale. 3. Faim du nez. Imaginez du pain frais, du café fraîchement moulu ou des muffins qui cuisent au four. Vous imaginez leurs odeurs, n'est-ce pas? Ce sont elles qui titillent la faim du nez. Pour la satisfaire pleinement, prenez le temps de humer ce que vous vous apprêtez à manger. Respirez profondément, prenez une pause, puis recommencez. Tentez d'identifier les différents parfums et ce qu'ils évoquent en vous. Continuez à y être attentif en mangeant et notez qu'à un certain moment, elles stimuleront moins votre faim. 4. Faim de la bouche. La faim de la bouche est le désir de la bouche pour des sensations agréables. Le plaisir est déterminé par la génétique, la culture et le conditionnement. La bouche recherche la variété des saveurs et des textures. La prochaine fois que vous aurez envie de manger, essayez de demander à votre bouche ce qu'elle veut. Quelque chose de salé, de sucré, de croquant ou de crémeux. Avant de manger, prenez le temps d'évaluer votre faim. Pendant le repas, faites une pause pour voir si votre bouche est satisfaite. Avez-vous besoin de continuer à manger? 5. Faim des cellules. La faim des cellules est celle qui dicte des envies particulières. Selon la docteure Bays, elle correspond à des besoins précis du corps. L'envie de boire du lait pour combler un besoin de calcium, l'envie de manger de la viande pour répondre à un besoin de fer, etc. Cette explication est difficile à prouver scientifiquement, mais chose certaine, il nous est tous déjà arrivé d'avoir vraiment envie d'un aliment bien précis. Ça n'arrive pas seulement aux femmes enceintes. Tenez-vous compte de votre faim des cellules lorsque vous planifiez vos repas et vos collations? Manger ce qu'on a envie quand on a vraiment faim est encore plus satisfaisant. 6. Faim de l'esprit. La faim de l'esprit est votre petite voix intérieure. Elle est influencée par ce que vous entendez, lisez et voyez, et elle commence souvent par « il faut » ou « il ne faut pas ». À quel point votre esprit a-t-il envie que vous mangiez tel ou tel aliment? Vous avez envie de vous faire plaisir avec un morceau de gâteau ou vous êtes plutôt en mode « le gâteau fait grossir, donc non merci ». Comment vous sentez-vous quand vous mangez des légumes que vous savez bons pour votre santé? La faim de l'esprit est satisfaite lorsque votre repas est en cohérence avec votre esprit. Pour apprécier les aliments que vous mangez, vous devez réussir à faire abstraction des messages négatifs. 7. Faim du cœur. Certains aliments réconfortent. Une soupe aux légumes bien chaude, la sauce à spaghetti de maman, un bol de crème glacée de votre saveur préférée. Ils répondent à la faim du cœur. Prenez un moment pour identifier comment vous vous sentez quand vous avez envie de manger. Seul, triste, ennuyé, fâché? Avez-vous faim ou avez-vous plutôt besoin d'être apaisé? Lorsque vous prenez conscience de la faim du cœur, faites une place à l'aliment en question quand vous planifierez vos repas et collations. Considérez l'aliment choisi avec bienveillance. Permettez-vous de manger en prenant le temps et appréciez le réconfort que l'aliment vous apporte. Cela dit, aucun aliment ne peut réellement satisfaire la faim du cœur. Il est préférable d'apprendre à nourrir votre cœur autrement. Parler à une personne que vous aimez, jouer avec un enfant ou un animal de compagnie, faire de l'exercice, cuisiner, bricoler, prendre un bain, lire un bon livre, faire un cadeau, etc. C'était « Les sept types de faim pour mieux comprendre pourquoi on mange », un texte de Stéphanie Côté, nutritionniste, paru le 12 janvier 2022 dans « To Go ».
Les limites, une affaire personnelle. Un texte de Ève Martel, paru dans Bel Âge. Vous trouvez qu'on vous marche souvent sur les pieds? Identifier et partager ses limites est un talent qui se développe. Apprenez comment les faire respecter. Certains mangent la tarte aux pommes froide, sans garniture. Ils ne se sont jamais posé de questions sur leurs préférences et prennent toujours la vie comme elle vient. D'autres l'aiment chaude, avec de la crème glacée, et n'hésitent pas à le demander. Il y a aussi ceux qui sont intolérants au lactose, mais qui n'osent rien dire si on leur propose le dessert avec une boule de glace à la vanille. Ils la mangeront en silence, et en souffriront les conséquences plus tard. La différence entre ces expériences est que chacun vivra le moment en fonction des limites et préférences qu'il a exprimées. Les limites ont plusieurs visages. Elles peuvent être amicales, romantiques, professionnelles. J'ai eu à déterminer les miennes et ça m'a aidée à être plus heureuse. Je suis quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens. J'aime rendre service, offrir mon aide, donner mon 110%. Cela m'a souvent permis de me dépasser et de grandir. Par contre, il a fallu que j'apprenne à déterminer et à exprimer ma zone de confort. Dans mon ancien milieu professionnel, il arrivait trop souvent que je dise oui à des demandes sans avoir vraiment le temps de les mener à bien. Je me laissais surcharger de dossiers, je restais tard au bureau et cela me causait du stress. J'en voulais à mes supérieurs de me mettre dans cette situation. j'ai fini par me demander pourquoi je sentais qu'on m'exploitait. En fait, la vraie source de mon malaise était que je n'établissais pas mes limites. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui me fâchait dans la situation? Comment pouvais-je y remédier? J'ai tiré des conclusions et décidé de mon plan de match. J'ai expliqué à mes supérieurs que j'étais prête à faire du temps supplémentaire, mais pas pour pallier un manque de personnel. Je trouvais injuste qu'on compte sur mon temps pour compenser la décision de la compagnie de retarder certaines embauches. Si on m'imposait de nouveaux dossiers prioritaires, mes supérieurs devraient alors aussi choisir ce qu'ils retiraient de ma cour. Tout cela s'est déroulé parce que j'ai pris mon courage à deux mains pour avoir des discussions essentielles à propos de mes limites. Ma santé mentale et mon accomplissement professionnel en dépendaient. Le message est passé et la situation s'est améliorée. Il faut dire que j'avais aussi des patrons très à l'écoute. Si vous vivez des moments où vous constatez qu'on dépasse vos limites, c'est le temps de faire respecter ce dont vous avez besoin pour atteindre l'harmonie au quotidien. Avoir une discussion constructive. Il est bien de ne pas lancer des accusations. Nous exprimerons plutôt pourquoi le changement est nécessaire. Par exemple, si vous trouvez qu'on compte trop sur vous pour être la gardienne, vous pouvez expliquer à vos enfants que, même si vous aimez beaucoup recevoir vos petits-enfants, vous appréciez d'avoir un préavis quand ils vous rendent visite. Ne serait-ce que pour planifier de bons petits plats et des activités. Exprimer cette limite par la discussion sera le premier pas d'une relation respectueuse. Réaliser que nos sentiments sont valides. Pour beaucoup, se faire respecter vient confronter leur peur de ne pas être assez généreux ou compréhensif. Pourtant, il ne faut pas s'oublier pour combler quelqu'un. Si vous trouvez qu'on ne respecte pas votre bulle et qu'on essaie de minimiser vos sentiments, il est temps d'avoir une discussion sur la nature de votre relation. Par exemple, si vous n'avez pas envie de raconter tout votre passé à un nouveau conjoint, vous avez le droit de lui mettre cette limite. S'il vous reproche alors de cacher des choses, c'est qu'il n'estime pas vos émotions valides. Vous n'êtes pas une maison qu'on doit inspecter avant d'y emménager. Vouloir garder pour vous certaines tranches de votre vie n'est pas une trahison. C'est une limite que vous avez le droit d'établir. Être prêt à sévir et souligner les bons coups. Si vous remarquez que vous êtes toujours en train de donner une deuxième ou même une troisième chance à une personne qui va trop loin, il est temps de mettre de la distance entre vous. Dans un premier temps, il est bien de faire le point et de demander à la personne ce qu'elle est prête à changer pour rétablir l'équilibre. Par exemple, quand un membre de votre famille vous demande toujours du soutien financier alors que vous avez déjà exprimé que vos fonds ne sont pas illimités et que vous avez vous-même un budget à respecter, vous devez être prêt à couper les ponts si la relation devient abusive. Certaines personnes agiront contre vos limites simplement pour les tester. Leur redire ces dernières peut sembler répétitif, mais ces rappels aideront à baliser une relation saine. Si les gens ne sont pas prêts à changer, exprimez-leur que leur comportement est un choix et que seul un ajustement pourra améliorer la relation. À l'inverse, remerciez vos proches plus à l'écoute qui ajustent leur attitude selon vos demandes. Au final, établir nos limites clairement nous donnera plus de confiance, nous permettant de profiter de relations plus harmonieuses avec les autres et de nous affirmer comme un être humain ayant une valeur et une identité propre. C'est une question de respect de soi. Pour bien établir nos limites, nous pouvons exprimer des éléments qui nous rendront plus confortables, ne pas minimiser nos sentiments, renforcer les comportements positifs. C'était « Les limites, une affaire personnelle », un texte de Ève Martel paru dans Bel Âge.
Façon de développer sa résilience. Un texte de Nathalie Parent paru le 29 novembre 2022 dans To Go. La vie est imprévisible. Parfois, on pense savoir ce qu'on fait et où on va, et soudain, la vie décide de nous faire prendre un chemin de traverse. Notre partenaire nous quitte sans préavis. On fait face à un licenciement au travail ou à un refus de notre demande de formation. Comment faire de ces difficultés un tremplin? Qu'une porte se ferme dans notre vie amoureuse, familiale ou professionnelle, c'est toujours difficile à accepter et à vivre. Mais une chose est sûre, qu'on soit au top dans notre domaine ou qu'on ait une vie de famille idéale, on fera inévitablement face à la déception à un moment ou à un autre. Cette déception ou cet échec est souvent ce qui amorce le changement et le progrès. On n'a qu'à penser à l'enfant qui apprend à marcher. Chaque chute lui permet de mieux maîtriser son équilibre et de progresser. Il est impossible d'être au top en tout temps, comme personne, parent ou proche, au travail, en affaires, en amitié, etc. On rencontrera des obstacles à un moment donné qui peuvent nous amener à baisser les bras. C'est humain. Il s'agit de se relever, de s'épousseter et de continuer quand on tombe. Voici 6 conseils pour développer sa résilience face aux difficultés. 1. Arrêtez de croire qu'on est la seule personne à ne pas avoir réussi. On doit se débarrasser de l'idée qu'on est la seule personne au monde à avoir raté son coup dans la création d'une entreprise, à avoir de la difficulté avec la prise en charge de nos parents ou dans notre vie amoureuse, à manquer son coup dans la confection d'un gâteau, à procrastiner dans notre remise en forme, etc. Des millions de personnes, chaque jour, vivent des échecs. En fait, en lisant la biographie de n'importe quelle personnalité qui a réussi, il est pas mal certain qu'on trouvera des échecs ou des difficultés dans son parcours. Avant d'être élu président des États-Unis en 1860, Abraham Lincoln a perdu 8 élections, fait 2 faillites et une grave dépression. Mais il n'a jamais abandonné. Tout le monde fait des erreurs ou voit la malchance s'abattre sur lui. Le chemin de la réussite et du bonheur n'est pas en ligne droite et tracé d'avance. Il peut être long, sinueux et chaotique. Les accidents et les sorties de route font partie du voyage. 2. Accepter la situation et nos émotions. Il est normal, après un coup dur, de ressentir de la déception, de la tristesse, de la colère et une baisse de confiance en soi pendant un moment. Se laisser la place nécessaire pour vivre ces émotions nous permettra de les accepter plus rapidement et de voir la situation comme un défi plutôt que comme une fin de non-recevoir. Après tout, l'échec ou le coup dur concerne un événement précis, pas l'entièreté de notre personne. Quand on essaie quelque chose de nouveau, il est normal qu'on ne soit pas au top au début. On est en apprentissage. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas le potentiel pour y parvenir, mais qu'on doit continuer à travailler. Ou ne pas s'obstiner si on s'aperçoit que la chose ne nous convient pas. Pensons aux athlètes ou aux personnalités qu'on admire. La plupart avaient sans doute de grandes compétences à leur naissance, mais la raison pour laquelle ces personnes sont rendues là où elles sont tient davantage à leur travail acharné et aux obstacles qu'elles ont surmontés en cours de route. 3. Analyser les causes d'un échec. Une des meilleures façons de vivre un échec de façon constructive est de réfléchir à notre situation. on peut se poser les questions suivantes. Où ai-je fait fausse route? Quels facteurs n'ai-je pas pris en compte? Y a-t-il des aspects qui se sont bien déroulés? Sur quoi avais-je le contrôle? Avais-je assez de motivation? Est-ce que j'avais le bon profil pour ce poste? Est-ce que cette activité, cette relation ou cet emploi me convient vraiment? L'objectif était-il trop élevé? Qu'est-ce que cela m'apprend de moi? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Que ferais-je autrement si c'était à refaire? Prendre du recul et essayer d'avoir une vue d'ensemble aide toujours à mettre le doigt sur ce qui a empêché l'atteinte du résultat souhaité et nous permet d'éviter de refaire les mêmes erreurs. 4. Identifier des stratégies pour l'avenir. On met ensuite en place des moyens concrets de favoriser l'atteinte de nos objectifs. On peut, par exemple, revoir notre emploi du temps, miser sur de nouvelles habitudes de vie, redéfinir nos priorités, se fixer de plus petits objectifs. Quand on porte notre attention sur ce qu'on fera ensuite, on apprend à moins se soucier du passé. Cela nous aide à considérer les erreurs comme des apprentissages plutôt que comme des obstacles à notre développement. 5. En parler à quelqu'un. Quand on se retrouve dans une position difficile, il est humain de vouloir s'isoler. On peut avoir honte, être dans l'embarras, on peut même vivre de la frustration. Cependant, la chose la plus importante à faire dans cette situation est d'aller vers une personne en qui on a confiance. Cette personne pourra nous rappeler nos points forts, nos qualités, nos succès, notre potentiel. Ce petit boost de confiance en soi nous permettra d'aller de l'avant. 6. S'ouvrir à de nouveaux projets. Il est important de ne pas s'apitoyer sur son sort, du moins pas trop longtemps, de se relever et de continuer à avancer. Comme le dit le dicton, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Essayons de ne pas considérer notre échec ou difficulté comme une occasion manquée, mais plutôt comme une flèche nous indiquant un autre chemin possible. Qui sait, on démarrera peut-être un nouveau projet, plus en phase avec notre personnalité. Il est aussi temps d'arrêter de penser qu'on réussit seulement si on atteint la perfection. La perfection est une illusion. Parce qu'au bout du compte, la meilleure façon d'évaluer nos succès et nos échecs, c'est de prendre en compte ce qui importe pour nous, ce qui est aligné sur nos valeurs. Et ça, c'est à nous de le déterminer et à personne d'autre. C'était « 6 façons de développer sa résilience », un texte de Nathalie Parent, paru le 29 novembre 2022 dans « To Go ».
Le chou frisé passe difficilement, même chez les fœtus. Un texte de Renaud Manuguera-Gagné, paru le 17 janvier 2023 dans Québec Science. Le souper avec de jeunes enfants s'accompagne souvent de montagnes russes d'expressions faciales allant du plaisir jusqu'aux grimaces. Or, si l'on se fie aux images publiées par des scientifiques britanniques, les réactions en lien avec la nourriture s'observe bien avant qu'un poupon s'assoie dans sa première chaise haute. Leur étude, publiée à l'automne 2022 dans la revue Psychological Science, laisse entendre que les fœtus ont des expressions faciales marquées et étonnamment distinctes selon les aliments auxquels ils sont exposés à travers le liquide amniotique. À l'aide de l'échographie 4D, une vidéo de quelques minutes du fœtus en trois dimensions, l'équipe de l'Université de Durham a surveillé les réactions de 70 fœtus à 32 ou 36 semaines dans les 20 minutes qui ont suivi l'ingestion par leur mère de gélules de carottes ou de choux frisés, kale en poudre. Les résultats ont ensuite été comparés avec une banque d'images de fœtus n'ayant pas été soumis à l'expérience, le groupe témoin. L'expérience a montré des visages souriants deux fois plus souvent chez les fœtus des mères qui avaient avalé les comprimés de carottes que dans les deux autres groupes. À l'inverse, les fœtus semblaient faire une moue de dégoût deux fois plus souvent chez les mères ayant ingéré les gélules de choux frisés, kia tamer. On ne sait pas si la réaction des fœtus est positive ou négative, car on ne peut pas les lier directement à des émotions, précise Nadia Raceland, membre de l'équipe. Mais on sait maintenant qu'ils réagissent aux saveurs avant la naissance. Des travaux avaient déjà révélé que l'alimentation de la mère durant la grossesse a une influence sur les goûts de l'enfant après la naissance. Julie Minella, du Monell Chemical Senses Center à Philadelphie, a ainsi mis en lumière que les enfants dont la mère a consommé du jus de carotte dans les derniers mois de la grossesse et pendant l'allaitement ont une préférence plus affichée pour cette saveur que ceux dont les mères n'en avaient pas bu. Bien qu'impressionnée par la qualité des images, la professeure Minella n'est pas convaincue par la nouvelle étude. « On ne sait rien des conditions dans lesquelles ont été prises les images du groupe témoin », déplore-t-elle. Certaines mères ont pu manger d'autres aliments avant l'échographie, ce qui fausse les conclusions. De son côté, l'équipe britannique souligne que la méthode d'imagerie permet de voir en temps réel la réaction des fœtus aux aliments. Ces travaux ont des implications quant à l'alimentation de l'enfant à naître, estime Nadia Raceland. L'idée que le bébé découvre les aliments et y réagit durant la grossesse offre la possibilité de l'encourager très tôt à manger sainement. Une méthode plus simple que les stratagèmes déployés à table pour que bébé mange ses légumes. C'était « Le chou frisé passe difficilement, même chez les fœtus », un texte de Renaud Manuguera Gagné, paru le 17 janvier 2023 dans Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure, Lynn Lamarche et Dominique Desrosiers à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.